Fort intérieur avec Valère Novarina, une émission préparée avec Wo Min, Anne de Biran et Didier Lagarde. Descendre dans le langage comme dans une matière profonde du temps et dans une architecture en acte, avec la pensée la plus matérielle possible à la main. Écrivez-vous, monsieur, dans votre dernier opus, L'envers de l'esprit, publié aux éditions Paul en 2009. Voici une phrase qui résume l'élan de votre démarche vers la matérialité du langage, sans oublier, dans l'espace entre les mots, car c'est dans cet espace-là qu'on peut le deviner, sans oublier le filet de l'esprit, mais retourné, recomposé, tel qu'il surgit dans les caches de la vie. Valère Novarina, quelques étiquettes pour vous faire froncer les sourcils. Vous êtes donc marcheur, interrogateur, auteur de pièces de théâtre et de textes qui ressemblent à des essais, mais inversés. Je poursuis. Et cette sorte d'ombre, c'est-à-dire les étiquettes qu'on met sur vous et qui n'existent pas, qui sont immatérielles. Car vous êtes également metteur en scène, ça compte beaucoup dans votre vie, dessinateur, peintre. Un mot pourrait peut-être éclairer l'ensemble, le mouvement. Quelques titres sur lesquels nous pourrons nous appuyer. Des titres récents, le monologue d'Adra Melek, publié aux éditions Paul en 2009, Falstaff, Paul 2008, L'acte inconnu, Paul 2007, repris en Folio Théâtre en 2009. L'espace furieux, Paul, tiré de Je suis, pièce qui a été jouée à la Comédie Française, à la Salle Richelieu, ce qui est très rare pour un auteur contemporain, pièce qui a été jouée en 2006. J'évoque également le drame de la vie, qui date de 1984, qui a été repris en 2003 en Poésie Gallimard. Et enfin, toujours pour poursuivre cette énumération, parce que l'étonnement est à l'origine de la philosophie, je citerai votre « Pour Louis de Funès », Funès étant regardé par vous comme un mystique, ouvrage que vous avez publié aux éditions Actes Sud en 1986. Décor à l'origine, les Alpes après-guerre, avec une mère comédienne, un père architecte, une enfance à Thonon, sur la rive sud du lac Léman. Alors maintenant, je pense que c'est à vous, Valère Novarina, de prendre la parole, vous, le sculpteur de mots, de nous offrir quelques images de votre enfance, à moins qu'on saisisse mieux quel est le pouvoir que les mots exercent sur vous et votre tentative aussi d'exercer un pouvoir sur les mots.
Ben, j'ai eu la chance de naître au milieu d'un des plus beaux paysages du monde, qui est le lac Léman, puisqu'il y a le lac, la montagne, etc. Et puis, il n'y avait pas encore le développement touristique, le ski, etc. Donc, on était isolés, on était très loin. Je me souviens, adolescent, d'avoir commandé la naissance de la tragédie de Nietzsche chez un marchand de journaux. C'est arrivé un mois et demi plus tard. Commander Vanda Landowska, le clavier bien tempéré, ça nous arrivait par les trains tirés par des locomotives à vapeur. Un mois après, c'était très différent. On avait souvent des très mauvais professeurs, parce que les professeurs ne voulaient pas du tout aller dans ce coin perdu. Donc c'était un endroit assez isolé, beaucoup plus que maintenant.
Et ça vous a protégé alors des courants de la mode,
français,
j'imagine.
Depuis pas tellement longtemps, puisque lorsque je suis né, les vieillards de 85 ans étaient nés sardes. Le père de ma grand-mère, ma grand-mère est née française, mais ils étaient nés sardes, et c'est un endroit situé vraiment dans la versatilité des Alpes. C'est-à-dire, une fois on était sarde, une fois français, une fois bernois, etc. Donc c'est toute une, je pense, une appréhension de l'histoire, une sensibilité, l'histoire différente que les gens qui sont nés dans la grande plaine de la Révolution ou la grande plaine napoléonienne ou des endroits où l'histoire est peut-être plus simple. Là, il y a une réversibilité des choses. On passe d'une vallée à l'autre, tout est à l'envers par un col, et la langue change très vite aussi. À Thonon, on parle français actuellement. Du temps de Madame Guyon, à Thonon, on ne parlait pas toi. On parle très bon français, mais vous montiez, parce que maintenant c'est fini, vous montiez dans la montagne, au bout d'une après-midi de vélo, il y a des gens qui parlaient vraiment le franco-provençal, le patois, et la, qui est une très très belle langue. Et la dernière personne que je connaissais qui dont le patois était vraiment la langue de tous les jours, il s'appelait, son surnom était Jean Lagrelle, il est mort à 103 ans là, il y a 8 jours. Voilà. Et quand on parlait avec Jean Lagrelle, avec son frère Louis, on était en contact aussi avec des paysans du XVIe siècle. Donc il y a tout ça, un rapport au temps ancien que j'ai eu, je pense, un peu par cette situation alpine.
Alors on va retrouver deux éléments qui sont importants dans votre démarche. C'est d'abord le fait d'avoir eu cette enfance un peu isolée, fait que vous avez été épargné en quelque sorte par les modes, premièrement. Et deuxièmement, on trouve aussi chez vous une fascination pour la langue en tant que telle, pour la matérialité de la langue, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi une fascination pour des langues étrangères.
Oui, et puis
d'autres langues, notamment si le latin, l'italien.
Et si vous êtes dans cette région qui s'appelle le Chablais, l'italien est tout proche, hein, après Chamonix, l'allemand n'est pas bien loin, on est au croisement de trois langues dans la journée. Donc cet amour des langues étrangères... Je l'ai depuis toujours. C'est inconnaissance des langues étrangères. J'en connais absolument aucune, mais je suis assez fasciné par les autres langues.
Votre mère était comédienne. Donc déjà, dans l'enfance, vous avez reçu des ondes positives du côté du théâtre.
Oui, des ondes, c'est ça. Ma mère avait joué avec les Pitoëf. Elle a décidé de m'appeler Valère quand elle avait 17 ans et de jouer Marianne dans Tartuffe. Si j'ai un enfant un jour, je l'appellerai Valère. Elle m'a toujours fait ça, la légende familiale. Voilà. Alors, quand on a joué au théâtre de la comédie à Genève, avec les acteurs, avec notre troupe, j'ai choisi l'endroit où ma mère avait dit ça. Et on a dit, voilà, c'est dans cette loge-là, dans la loge d'Agnès Sourdillon, qu'elle a dit, si j'ai un jour un fils, je l'appellerai Valère. Donc, ce rapport est très tôt au théâtre, mais aussi... Une chose assez curieuse, c'est que mon père, qui avait bien connu les Fratellini et qui allait beaucoup au cirque quand il était à Paris et qui nous racontait que le vendredi soir, au cirque, on retrouvait Max Jacob, Fernand Léger, Picasso, les intellectuels, les artistes allaient au cirque, ils étaient complètement nourris de cirque, nous répétaient assez régulièrement que le théâtre ne valait rien en face du cirque. C'était un peu l'enseignement théâtral de mon père. Mon père était donc architecte et descendant de toute une lignée de gens du bâtiment d'Italie. C'est son arrière-grand-père qui était parti avec une truelle et un fil à plomb dans la poche, à pied, dans le sac de la Valsesia, qui est allé travailler à Lausanne, etc. Son père a eu une petite entreprise de peinture et est devenu entrepreneur. Mon père est devenu architecte et j'étais, dans le fond, le premier qui trahissait le bâtiment.
Des lectures déterminantes dans votre adolescence ?
Des lectures, ce qu'il y avait dans la bibliothèque de ma mère, principalement Labiche et Gide. C'était là. Alors j'ai lu... Coridon à 13 ans et tout Labiche à 8-9 ans, ce qu'il y avait dans sa bibliothèque.
Parce qu'après, quand vous allez choisir un sujet de thèse, après, vous allez vous intéresser à Artaud. Mais disons après, que ça va être nettement plus tard.
Non, et après, il se trouve aussi, puisque vous voulez que je parle un peu des gens autour de moi dans l'enfance, il y avait un architecte qui s'appelait Louis Moina, qui était quelqu'un d'assez âgé, un peu élève du Bauhaus, etc., qui était un grand original, qui avait fait faire une voiture dont la carrosserie était dessinée par je ne sais quel ingénieur ou artiste, etc., qui avait une bibliothèque tout à fait extraordinaire. Et lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la littérature, ma mère m'a dit « va voir Louis Moina ». Et je me souviens qu'il m'a donné Lautréamont. J'avais 18 ans, il m'a mis Lautréamont dans les mains. Je m'en souviens aujourd'hui, parce que ce matin, j'ai reçu avec un grand plaisir le Lautréamont de la Pléiade, les œuvres complètes, présenté par Jean-Luc Steinmetz. J'ai une sorte d'émotion particulière de recevoir ce matin à nouveau le Lautréamont. Donc c'était que j'ai pu passer aussi d'autres livres, mais il fallait des relais pour que les livres nous parviennent. On était quand même...
Donc le contact avec le théâtre est arrivé surtout à travers votre mère, mais j'imagine qu'il est arrivé aussi à travers des textes quand même.
Oui, bien sûr. Et puis aussi des gens. Il y a Gérard Philippe est venu à Thonon, Villard. Il était question à un moment qu'il joue à Thonon et ma mère nous a envoyautés. Mais le théâtre venait difficultueusement jusqu'à Thonon. Et alors là, c'est le travail extraordinaire de Jean Dasté, de la Comédie de Saint-Étienne. Ils venaient deux fois par an et on les attendait comme des messies qui nous apportaient des choses magnifiques, comme le cercle de Cray, de Brecht, que j'ai vu à 12-13 ans. Mais les choses à Thonon étaient précieuses parce que rares.
On vous sent pratiquement né sur une île.
Oui, je ressens aussi, c'est peut-être aussi des choses que je construis a posteriori, mais je ressens l'île des Alpes. Mais c'est une île paradoxalement, parce que les vallées sont très isolées, les gens se marient, beaucoup de mariages consanguins, et parfois on voyait encore des crétins des Alpes et des goitreux quand j'étais enfant. Mais en même temps, c'est un extraordinaire endroit d'échange, c'est-à-dire les paysans de la côte d'Arbrot partaient vendre des graines en Hongrie, et ramenaient des femmes, ramenaient des clochers à bulbes, ramenaient de Pologne des recettes de beignets de pommes de terre. Il y a eu énormément d'échanges, je le ressens comme ça, entre les Alpes et l'Europe centrale. On allait vers l'Est, et de sorte que, curieusement, lorsque je voyage, je me sens plus à l'étranger à Toulouse qu'à Moscou. Parce qu'à Moscou, ils ont aussi les 6 mois de neige. Ils ont aussi le temps avec l'hiver.
Et vous restez attaché à votre pays d'origine ?
Très attaché, j'y retourne à la moindre occasion, mais je le perçois.
C'est là où vous écrivez ?
Heureusement, j'écris un peu ailleurs aussi, mais généralement, je commence les livres là-bas, je les finis ailleurs, mais j'y retourne tous les un mois et demi, j'y retourne, je suis attaché. Oui, oui.
Alors passons assez vite, Valère Novarina, arrivons dans les années où vous poursuivez des études, assez poussées d'ailleurs à la Sorbonne, à la fois en philosophie, en philologie. À un moment donné, il faut choisir un sujet de mémoire. Et j'ai lu quelque part que vous avez hésité entre Antonin Artaud ou Louis de Funès. Vous avez choisi Artaud, en fin de compte. Comment trouver un pont entre Artaud et Funès ?
Vous savez, Artaud, il a écrit sur les Marx Brothers. Et il aurait certainement peut-être écrit lui aussi sur Louis de Funès. Il aimait le burlesque, les grands acteurs comiques. Et voilà, c'est pas un personnage compassé.
Il n'est pas compassé, mais enfin, il y a quand même.
Non, mais aussi
il y a une ambition. Mais le pont de recréer une cosmologie.
Non, mais le pont, si vous voulez, il est par. C'est pas le pont, mais lorsque je m'intéressais à Louis de Funès, je m'y intéresse toujours. Mais lorsque je voulais faire ce travail, c'était à la suite d'un petit article que j'avais découpé dans France Soir. Où il y avait une interview de Louis de Funès et il disait une phrase extraordinaire sur le théâtre. Je la montrais à mes amis. De qui est cette phrase sur l'acteur ? On me disait, ça c'est Alain Cuny, ça c'est Nietzsche, ça c'est Artaud. C'était Louis de Funès. Alors j'ai perdu la phrase, je la portais toujours dans mon portefeuille, je l'ai perdue et peut-être que je l'ai reconstituée par ce livre où j'attribue des propos qui sont imaginaires à Louis de Funès, qui est ce livre qui s'appelle « Pour Louis de Funès ». Disons, je le fais parler.
Votre vocation au départ, donc on sent bien qu'elle s'oriente vers le théâtre.
Oui, lorsque j'ai quitté Thonon, j'ai présenté le conservatoire, je voulais être acteur, et puis...
Pourquoi ne pas être acteur ? Vous avez une telle fascination pour l'acteur. Vous écrivez des pages tellement fortes, tellement extraordinaires sur l'acteur, qu'on se demande pourquoi Valère Novarina n'est pas devenu acteur.
J'aime les acteurs parce qu'ils sont devant moi, parce que c'est la distance qui crée l'amour. Hein. Je devais peut-être être en face de l'acteur et l'aimer et pas être acteur moi-même. Je crois d'ailleurs que j'étais un pas très bon acteur, trop surchargé, compliqué, et puis j'avais pas le physique de mon emploi. À l'époque, il fallait au conservatoire, il y avait des emplois, donc j'avais un tempérament extrêmement comique, et j'avais un physique plutôt jeune premier, donc à l'époque, ça ne collait pas.
Vous le regrettez ou vous sentez que maintenant le destin qui a été le vôtre était celui
que
vous deviez avoir ?
Je ne le regrette pas du tout. Non, j'étais tout d'un coup, j'ai fait autre chose. Je me suis intéressé à la littérature. J'ai écrit très, 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 très tôt.
Alors, cette autre chose est assez multiple. Vous avez écrit des pièces de théâtre. Vous avez écrit des textes, essais, pas essais, anti-essais, peu importe le nom qu'on leur donne. Vous dessinez, vous peignez. Où trouver l'unité entre vos différentes activités artistiques ? Et puis, metteur en scène, bien sûr.
L'unité, je ne sais pas, mais le centre est quand même le travail de l'écriture. Et puis, la sensation qu'il faut jeter le langage dans l'espace. Il est jeté sur la page et il faut, plus encore, le jeter dans le cube, dans le, dans le volume du plateau. Il faut que le langage trouve son volume, qu'il quitte la page et qu'il retrouve le volume qu'il a dans le corps.
Il le trouve à travers le comédien. Mais quand vous écrivez un livre, comment le langage peut-il, en quelque sorte, sortir de la page, si c'est ça votre dessin?
Ben, il sort de la page peut-être par la disposition théâtrale aussi, par la typographie théâtrale. Il se casse, il devient... Le livre est aussi une architecture. Et tous les livres sont, dans la phase finale, écrits au mur. C'est-à-dire, je fais un tirage tout petit, j'écris à la main, ensuite à l'ordinateur, mais à la fin, je fais des tirages tout petits, je le mets au mur, et j'ai une sorte d'ambulation finale dans le livre. Je tourne en rond dans le livre et je... touche une phrase, et il y a une répercussion d'un seul mot changé sur tout le livre. La représentation du livre comme une architecture, qui est cette sensation qui est venue très précisément au moment de la lecture de la Divine Comédie et du Ulysse de Joyce, coup sur coup. Voilà, que dans un livre, il y a un porche, il y a des catacombes, il y a un portail nord, voilà, qu'un livre est une architecture mentale.
Alors j'imagine vos pages sur le mur. Est-ce que le fait de les voir tout ensemble, ce qui est rarement le cas, parce qu'effectivement, quand on a un manuscrit sous les yeux, en général, la page du dessus est la page du dessous. Donc là, je comprends très bien. Vous les faites s'épanouir. Est-ce que ça vous permet aussi de les recomposer pour faire un montage différent de ce que cela aurait été quand c'est sorti naturellement de votre main?
Je suis obligé, à un certain moment, de travailler au mur, de les épingler sur le mur et de les voir sur le mur.
Et donc pour les recomposer par rapport à l'ordre initial.
De les voir autrement, de les voir d'un seul...
Vous ne répondez pas tout à fait à ma question. Vous les voyez autrement, mais ensuite quand le livre va sortir, il va y avoir un ordre.
Il va se replier.
Il va y avoir une sculpture.
Il va se déployer par votre lecture à vous quand vous allez lui redonner souffle en le respirant, parce que le travail que fait le lecteur est pour moi très semblable à celui que fait l'acteur. C'est vous qui allez redonner au livre son volume.
Là, je vous suis. Mais ma question était sur l'organisation de ces pages, les unes après les autres. Parce que c'est ce qui m'a frappé dans l'envers de l'esprit. Il y a une construction qui n'est pas une construction de type intellectuel.
Oui.
On ne pourrait pas dire, même si vous donnez des têtes de chapitres, on ne pourrait pas dire A, B, C, D, E, F. Donc on sent qu'il y a un tâtonnement, comme celui vous avez parlé d'architecture, ça peut être peintre ou musique, qui fait qu'on va passer d'un passage, puisque ce sont en quelque sorte des extraits, des passages d'un passage à un autre. Je voulais savoir comment s'organise cette alchimie du passage d'un texte à un autre.
Il s'organise au mur et il est fondamental. L'ordre est très important, mais c'est qui n'est pas l'ordre discursif, logique, d'une dissertation.
Donc
mais
c'est visuel.
Mais l'ordre
pour
est fondamental.
Vous, c'est visuel ou bien auditif? Vous les entendez, les textes qui sont sur le mur?
Oui, les textes, je les entends et je les vois, mais je pense aussi qu'au théâtre, on vient voir le langage, on vient voir le livre. On vient voir le. Et les mises en scène sont aussi faites au mur, c'est-à-dire j'affiche le texte et je place tel passage du violon, tel passage de l'accordéon. J'ai besoin de voir le déroulement. Mais l'ordre est fondamental, même c'est l'ordre qui pense. Il y a une sorte de pensée par le rythme. Le rythme pense quelque chose et on ne sait pas forcément ce qu'il pense. Il faut travailler avec... C'est très important de travailler, pour moi, de travailler avec ordre et désordre. Chaos et ordre.
C'est ça, parce que je sens chez vous, effectivement, mais je rebondis sur ce que vous venez de dire, cette double direction d'une organisation intellectuelle assez rigoureuse. Vous appuyez sur les langues, des connaissances, des références, et en même temps, quelque chose qui serait d'un ordre beaucoup plus instinctif, ce que vous appelleriez peut-être le désordre, c'est-à-dire quelque chose qui se fait sans la volonté, qui vient d'une couche beaucoup plus profonde.
Bien sûr, et c'est très important que le livre, pendant très longtemps, soit travaillé de façon involontaire, et par exemple de pas savoir ce qu'il y a dedans. Et c'est pour ça que j'étais fasciné par ce que Madame Guyon raconte de la façon dont elle écrit. Par exemple, un livre précis, Le discours aux animaux, je l'ai écrit par amplification successive de quelques pages qui restaient, les 6 pages qui devenaient 12, qui devenaient 36, qui devenaient 60, en faisant chaque fois un parcours qui, à la fin, durait une année, et je ne savais pas ce que j'avais écrit la veille. Et je devais pas, j'avais une sorte d'interdit, j'appelais ça le principe de Lot, je ne devais pas me retourner. Mais ce qui, au bout d'un moment, peut créer une angoisse extraordinaire, parce qu'au bout de 2 ans, je me suis dit, je vais me retourner, je vais voir le livre, ce sera des pas sur la neige, recouverts de neige. Il n'y aura peut-être rien.
Il y a eu quelque chose.
Il y a eu quelque chose. Donc il y a aussi, par exemple, ce texte qui s'appelle « L'acte inconnu », qui devait se jouer à Avignon, etc., il était gardé à l'état de fragments éparpillés le plus longtemps possible, presque jusqu'au mois de février, alors qu'on jouait dans la cour d'honneur au mois de juillet. Parce qu'il me semblait que l'ordre qui allait architecturer tout ça serait d'autant plus fort qu'il serait retardé. Comme dans la présentation naïve qu'on se fait, je me fais représentation de la limaille de fer sur une feuille de papier. On met un aimant et tout d'un coup, tout s'organise. Donc, il fallait rester dans l'inconnu, dans l'éparpillé, dans le « je ne sais pas ce que c'est, mais je continue ». Et puis, tout d'un coup, ça s'organise. Plus la structure venait tard, le contraire de Racine, hein, parce que je crois que Racine faisait un plan. Et puis, petit à petit, l'idée que l'intelligence vient du fond de la matière, du fond de l'opaque, du fond de ce qu'on ne comprend pas, ce respect de l'opacité de la matière.
Ça veut dire que vous faites très confiance, en fin de compte, à la structure de l'inconscient.
C'est un mot que j'emploie jamais, hein, conscient, mais je parle de...
Non, mais étiez plutôt dans l'instinctif ou
dans l'animalité. L'idée de matérialité.
Oui, vous aimez mieux beaucoup plus parler de...
De matérialité.
Oui, de matière et de corps. Mais en fin de compte, ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous, qu'on l'appelle l'inconscient, qu'on l'appelle le corps, qu'on l'appelle l'intuition, quelque chose en vous en qui vous faites plus confiance que en votre intelligence discursive.
Oui, mais peut-être aussi le langage comme une matière, le langage comme une onde, et le langage comme quelque chose qui existe aussi, je dis pas mal, le langage est inhumain, une chose qui est aussi hors des hommes. Le langage en ce moment qui est entre nous, qui est comme un animal entre nous, dont on voit les mouvements, mais on peut pas... L'idée que la conception comme ça, mécaniste du langage, comme quoi ce sont des moyens mis pour exprimer une pensée, je la combat, je cherche quelque chose de plus géologique, une appréhension plus zoologique ou géologique, et une perception animalesque de l'animal langage.
On va voir comment cela fonctionne dans l'envers de l'esprit. C'était donc votre dernier ouvrage publié aux éditions Paul, avec une ouverture qui est assez étrange, qui est faite pour surprendre. Comme si c'était une page extraite d'un journal qui daterait de 2004, et comme si dans ces quelques lignes de départ, vous alliez donner le « là » du livre, pour déstabiliser dès le départ le lecteur. C'est volontaire ou pas?
Je ne me souviens plus comment ça commence, mais je crois que c'est la ponctuation, non, c'est ça ou...
Ouverture avant la lettre, construire tout en 40 jours, bâtir l'intrigue au dé, pratiquer le tirage des répliques, progression par nappe, déversement et vague, des scènes s'éboulant les unes dans les autres, l'une cédant la suivante à l'instant non prévu.
Voilà, c'est un fragment d'un journal brut, journal d'une sorte de d'entassement de slogans que j'entasse réellement sur un cahier.
Ils sont télégraphiques.
Ils sont livrés totalement bruts et beaucoup, je ne les comprends pas. Mais ils sont là. Et après, je les comprends, certains, 10 ans après.
Comme des rafales que vous nous envoyez.
Ce sont des textes qui est arrivé là, comme des cailloux. Mais ça part de cailloux.
Moi, je l'ai vu aussi comme une volonté de dire au lecteur qui ouvre cette page, ne vous attendez pas à un chemin balisé.
Voilà.
Je vous assène des phrases, elles ont un sens, je ne sais pas exactement lequel. Je ne sais pas pourquoi telle phrase suit telle phrase, mais allons-y.
Perdre pied au premier mouvement.
Dès le départ. L'ouvrier du drame, vous appelez ça. Et puis alors ensuite, ce sont des phrases, tout de suite après, ce sont des phrases d'auteurs célèbres, que ce soit Wagner ou Melville, ce sont des phrases étonnantes que vous avez glanées ailleurs, dans
d'autres
livres.
Oui, que j'épinglais au mur, qui me servait de slogan.
Voilà,
j'accumulais des gris-gris.
Voilà, on est dans le montage, et puis ensuite, on va entrer, je ne dirais pas, dans quelque chose de plus raisonnable. Il y a peu de raisonnable chez vous, Valère Novarina. Mais on va entrer dans quelque chose d'un peu plus rassurant quand même dans ce livre. Avec de temps en temps des phrases comme ça, tout à fait étonnantes. J'en sors une, par exemple. Le théâtre est plus court que la pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le théâtre est plus court que la pensée.
Il y a une sorte de raccourci dans la... Je pense que ça parle de l'expérience du spectateur. Il comprend, par le théâtre, par l'incarnation d'acteur, il comprend des choses qu'il ne pourrait pas comprendre dans un livre ou sur le journal. Enfin, il y a une sorte il y a des raccourcis, des zigzags dans le langage et d'autres trajets dans la phrase qui se font. Je pense par le travail de la mémoire. Parce que qu'est-ce qui se passe? Un spectateur est obligé de se souvenir de toute la pièce. C'est une expérience de la mémoire pour lui que d'être deux heures et demie avec une sorte des mots qui tombent comme des feuilles se superposant les unes aux autres. Et à la fin, il y a une sorte d'émotion de la mémoire de la pièce. Et il perçoit le langage à l'endroit, à l'envers. Un mot de la fin éclaire une réplique du début qui est encore agissante quelque part dans son cerveau. Il y a une sorte de perception, irriguée. J'ai des images que des résonants, mais l'idée que le langage va par capillaire est une onde, fait partie de la. Devrait être étudié comme on étudie la physique des fluides, une onde, un fluide dans l'espace, mais qui se répand par capillarité.
Ça, c'est le point de vue du comédien. Mais est-ce que
le spectateur peut
le recevoir de cette manière-là, presque?
Le spectateur fait cette expérience de la diffusion du langage dans tous les sens, et pas que dans le sens de la logique de la phrase. Et il n'y a pas qu'en allemand que le verbe est à la fin, que c'est le mot de la fin qui éclaire le début. Je pense qu'il y a une sorte de perception dans tous les sens et une sorte d'exaltation et de joie de cette perception avec tous les sens, dans tous les sens.
La recherche de la globalité. Donc, en fin de compte,
de l'irrigation du corps entier.
Voilà, ce que le temps sépare doit en même temps être en quelque sorte comme des atomes qui se resserreraient, doit être ramassé en un seul point.
Oui, justement, si vous voulez, tout à l'heure, ce matin, j'étais en train d'essayer d'écrire quelque chose sur l'idée d'un temps démesuré, un temps hors mesure. Qui a le temps mesuré, la flèche du temps, etc. Et il y a aussi une expérience du temps qu'on fait par l'art, par le théâtre, etc., qui est d'un temps réversible, d'un temps en épaisseur, d'un temps charnel. Enfin, je ne sais pas, on peut mettre beaucoup de mots là-dessus, mais j'essaye de cerner des choses précises.
Le charnel, la matière, c'est quelque chose qui était vraiment un leitmotiv chez vous. Vous y revenez toujours.
Oui.
Vous y revenez toujours, et on verra d'ailleurs dans le dernier tiers du livre, que ce charnel, cette matière, n'empêche pas du tout l'ouverture vers un domaine spirituel.
Ah ben non.
Et je dirais même au contraire.
Au contraire même, parce que...
C'est comme si, véritablement, il y avait ce besoin d'incarnation pour aller trouver le spirituel.
En tout cas, quelque chose de foncièrement non-dualiste dans la... Voilà, il y a une phrase du marquis de Custine, je crois que j'avais lu, je ne sais pas où, qui me plaisait beaucoup. Il disait le spiritualisme n'est qu'un matérialisme raffiné. L'idée qu'il n'y a pas de duel. Il n'y a pas donc lutter contre le duel, contre le manichéen, contre le numérique, et retrouver la dialectique, le volume, le renversement et l'avancée par le temps sans mesure.
Rien n'est hors de la physique, écrivez-vous. Ou bien la preuve par la chair, la preuve par le souffle. Alors on en revient aussi au jeu du comédien. Le souffle est capital pour vous.
Le souffle est évidemment totalement, la respiration, totalement fondamentale dans l'art de l'acteur. Et c'est si fondamental qu'on ne peut pas en parler. Il faut parler d'autre chose et ça va agir. Mais si on dit à un comédien, tu respires mal, on n'a rien dit. Mais si c'est tout d'un coup le souffle se règle par le travail, se règle entre les acteurs et arrive une sorte d'accord avec le temps qui était là dessous.
Oui, à plusieurs reprises, vous montrez quel est votre travail à l'égard du comédien. Vous n'êtes pas directif. C'est juste des petites touches pour que le meilleur de lui-même
attentif et parfois un peu suggestif. Et voilà. Mais il faut vraiment... C'est lui qui doit tout trouver. C'est lui qui... Il ne faut vraiment pas indiquer. J'ai horreur des photographies. Souvent, il y a des numéros de Télérama, je ne sais pas quoi, sur la direction d'acteur. Et on voit le metteur en scène en train de toucher l'acteur. Je ne supporte pas de voir ça. Je pense qu'on n'a pas le droit de le toucher. Et avec les acteurs, j'ai très peu d'intimité. J'ai pas d'amis acteurs. Je suis ami avec le scénographe, avec le... musiciens, mais les acteurs sont d'autres corps à distance dont il faut respecter l'autonomie et le savoir particulier parce qu'ils ont un savoir étrange.
Donc votre rôle, c'est juste une petite touche pour qu'il soit au bon endroit.
Voilà.
Au bon endroit par rapport au texte et au bon endroit par rapport à son corps aussi.
Voilà, bien sûr, il faut trouver le lieu du langage dans l'espace. Peut-être, si on joue Salle Richelieu, on sent très bien que Sarah Bernhardt est à 12 cm près. C'est là qu'elle allait pour tel passage de Phèdre et là pour l'autre. Le langage trouve ses places dans l'espace.
À nouveau, vous traitez le langage comme une personne.
Oui, comme...
puisque là, c'est le langage qu'il trouve. C'était même...
dans le fond, c'est le langage qui écrit aussi, parce que les mots en savent plus que nous. Voilà.
Ce mot personne, d'ailleurs, qui est très important pour vous.
Oui. C'est mot...
Vous n'aimez pas le mot
extraordinaire.
Vous n'aimez pas le mot individu, mais une personne.
Ah oui, c'est un mot extraordinaire parce que c'est en français, parce qu'il n'existe pas dans toutes les langues sous cette forme, mais c'est un mot réversible. Et là où les langues pensent le plus, là où les langues sont le plus profondes et riches, c'est dans les pauvres mots réversibles, dans l'ambivalence, dans la réversibilité. Là est l'énergie.
La réversibilité qui est capitale chez vous. On le voit dans le titre ici, l'envers de l'esprit.
Cette idée de...
Il s'agit toujours...
Se retourner, que la force est dans le retournement.
Voilà, il s'agit toujours de montrer en quelque sorte la face cachée de la lune, de toute chose.
Plus encore que le mouvement, le retourne, la réversibilité, que les choses les plus dures qu'on éprouve dans sa vie sont réversibles et sont aussi des forces qu'on trouve.
Culture avec Valère Novarina. Vous avez beaucoup évoqué le thème de la réversibilité. Il y a aussi quelque chose qui est important chez vous, c'est les éléments qui apparemment n'ont pas l'habitude de cohabiter que vous essayez de faire s'entrechoquer, hein, aussi bien dans vos livres que j'imagine dans vos mises en scène, dans vos pièces de théâtre. Et il y a une phrase de vous qui me semble bien illustrée aussi dans le sens de votre démarche, quand vous dites que le théâtre est le lieu de la pleine clarté contradictoire. Donc on est apparemment dans la clarté, mais on est aussi dans la contradiction. Et ça, c'est ce qui crée, me semble-t-il, de la tension à la fois dans vos pièces, dans vos mises en scène et dans vos textes qui ne sont pas des textes directement de théâtre.
Le lieu du paradoxe, vraiment l'endroit du renversement, l'endroit de Janus,
le paradoxe, mais qui n'est plus
biface.
Voilà, qui à un moment donné, par la vertu du langage, n'est plus un paradoxe, et simplement une manière de montrer la vie telle qu'elle est.
Saisir ensemble les contraires. J'ai une sorte pas de compagnie, mais d'association qui s'appelle d'ailleurs l'union des contraires. Donc,
Moi, je dirais l'union des apparents contraires, puisque le but, c'est ce qui se passe dans la vie. C'est ce qu'on croit être contraire si on dissèque, mais qui n'est pas contraire, puisque c'est présent dans un être, c'est présent dans une phrase. Vous n'avez pas l'air convaincu.
Oui, je réfléchis. Non, je pensais, c'est peut-être pas ça que vous m'avez demandé, mais je pensais à l'idée de mettre le spectateur dans l'inconfort, de lui enlever le sol sous les pieds, de lui enlever le, de retourner le langage à vue et qu'il ne soit pas dans un état de certitude affective ou idéologique. Le théâtre comme un endroit désidéologisant, alors que c'est un endroit aujourd'hui très idéologique, peut-être plus encore qu'ailleurs. C'est un endroit de grand conformisme. Donc, un état de danger. Et parfois, quand j'assemble comme ça des répliques, des choses comme ça, j'ai l'impression de manier des petits morceaux de dynamite. Il suffirait d'un mot à côté. Mais donc, chercher partout l'énergie, la dynamique, la force, le trajet et le langage, les mots comme des projectiles.
Et là, vous parlez aussi bien de vos textes pour la scène que de vos textes
c'est dans le fond peu
la lecture
peu
que l'on peut faire au soleil de son fauteuil. C'est
l'idée que
c'est le même mouvement pour
l'idée
vous.
Que des flèches partent de la scène et atteignent les spectateurs, pas du tout en tir groupé, mais individuellement. Donc, c'est ça qui est aussi très beau dans de vieux disques que j'ai de musique égyptienne, c'est qu'il y a de temps en temps un spectateur, et non pas la foule qui acclame, mais un spectateur pousse un petit soupir, un petit râle d'encouragement. On appelle ça le tarab, je crois, ça veut dire le charme. Mais chacun est atteint individuellement, il est atteint par sa faille à lui, et que des flèches partent du plateau et elles arrivent pas toutes ensemble, elles percent chacun en principe à son tour, et que s'il devait y avoir un patron des spectateurs, ce serait peut-être Saint-Sébastien. C'est comme ça que celui qui reçoit les flèches. C'est lui qui est nu, c'est lui qui est exposé, qui va être atteint ou il ne croit pas.
Restons dans votre dernier livre, L'envers de l'esprit, publié aux éditions Paul. Il y a donc toute cette réflexion sur la matérialité du langage, sur la mise en scène. Vous nous promenez aussi dans certains domaines de la culture. Et à partir d'un certain moment, on va entrer dans le domaine que l'on va appeler religieux, en mettant le terme entre guillemets, puisque pour vous, il s'agit beaucoup plus de spiritualité et de texte, à travers le texte même de la Bible, que de religion, pris comme une institution humaine qui n'est pas ce qui vous préoccupe le plus. Et la Bible devient extrêmement présente. La Bible, pour employer une phrase de vous, comme un système respiratoire.
L'entièreté de la Bible, c'est-à-dire les deux testaments. La Bible qui est sans arrêt en écho avec elle-même. C'était tout à fait extraordinaire de regarder une édition de la Bible, de voir chaque fois, on a en marge JN 12, 13... Z,
oui,
temps,
chaque
etc.
passage qui renvoie à un autre passage.
Toute la Bible renvoie à la Bible, c'est une chambre d'écho, comme peu de livres le sont, et c'est un endroit d'ouverture et de respiration et de résonance des choses d'unité dans la pluralité, de polyphonie monophonique, enfin je ne sais pas comment dire. Voilà.
On retrouve le sens du mouvement qui est capital chez vous.
Oui, et je compare, si vous voulez, tout le temps la lecture de la Bible à la marche en montagne, parce que ce qu'il y a de très beau dans la marche en montagne par rapport à la marche en plaine, qui est praticable aussi, mais c'est qu'à chaque pas, tous les trois pas, le paysage change complètement. Si vous commencez à monter un peu, tous les trois pas, donc il y a une sorte de miroitement de l'espace autour de vous, et je compare le marcheur en montagne au lecteur de la Bible.
Dans cet ouvrage, une sorte de parallélisme, enfin en tout cas plus que de parallélisme, de mise face à face, à la fois de Madame Guyon, dont vous avez parlé, et de Joseph de Maistre. Donc ce n'est pas simplement un rapprochement géographique. Il y a une apparente opposition, et vous, de cette opposition, vous allez faire une sorte de communion.
Oui, il y a une opposition. Madame Swetchine disait de Joseph de Maistre que c'était un chrétien de tête. Et Madame Guyon est une chrétienne de la tactile,
et de l'intériorité.
Et de l'intériorité, oui. Donc c'était le toucher de Dieu chez Madame Guyon et le théorème chrétien chez Joseph de Maistre. C'est ça qui me semblait, les deux personnages me semblaient antagonistes. Mais je me souvenais d'un ami très cher qui s'appelait Jean-Noël Voirnet et qui s'intéressait à Madame Guyon aussi, et qui opposait toujours la théologie à la mystique. Et moi, je défendais le contraire, que la célèbre phrase d'Eva Gorlepontic, si tu es théologien, tu pries vraiment, et si tu pries vraiment, alors tu es théologien. C'est une coupure très, très superficielle.
Et c'est une foi que vous vivez.
Oui, et c'est aussi quelque chose que je lis dans les livres. À la fin du De Trinitate de saint Augustin, ça termine sur une espèce de paragraphe d'aphasie où il n'a rien dit, où il n'a pas réussi à...
Valère Novarina, je vous interroge sur vous et vous me répondez en parlant de quelqu'un d'autre.
Je vous interroge sur
votre manière de vivre votre foi chrétienne.
Oui, oui, oui.
Ou christique.
Ben, si je découvre l'extraordinaire profondeur du christianisme tous les jours.
Mais ce n'est pas simplement une démarche intellectuelle.
Non, ce n'est pas une démarche intellectuelle.
Vous me répondez avec du texte à chaque fois. Moi, je ne veux pas du texte, là, je veux de la chair, même si pour vous, chair et texte sont synonymes.
Mais peut-être je suis un peu comme Joseph de Maistre, chrétien de tête aussi.
Non, mais pour le reste, vous n'êtes pas du tout de tête, puisque vous essayez tout le temps d'incarner les mots, de les faire vivre par eux-mêmes, de leur mettre de la chair, du sang, de les faire vibrer comme étant de la pure matière. Donc, est-ce que la matière, allons-y à fond, est-ce que la matière divine vous habite ?
Il y a tout des tas de moments dans le livre où il parle justement du christianisme comme une religion du toucher.
Le livre.
Moi, vous savez,
le livre parle sans vous, bien sûr. Oui. On l'a compris.
Oui, il y a dans la Bible un toucher de Dieu. Enfin, Dieu se touche, Dieu s'approche et Dieu se mange. C'est quand même le phénomène théophagique est quelque chose de tout à fait, disons, ahurissant. Il y a une sorte de j'allais dire de violence, mais ce n'est pas le mot, mais il y a une sorte d'intensité, de renversement des idées qu'on se fait dans la religion, dans le christianisme, qui est fantastique. Enfin, une phrase du livre qui me revenait aussi, que le christianisme est le carnaval du monothéisme. Et le Christ est aussi... non seulement le serviteur souffrant, mais un homme dont on se moque. Un homme, on crache à son visage, il a une couronne d'épines, c'est quelque chose de tellement fort. Je sais pas, ce dimanche, à France Culture, dans l'émission protestante, il y avait une femme, une organiste, qui a travaillé pendant des années, à l'émission, qui a dit une très belle prière, et parlait de la foi, elle disait, et surtout, Seigneur, mets toujours un peu de doute dans ma foi. C'est extraordinaire. Il y a des religions qui manquent de ce doute. Et dans le christianisme, il y a non pas la négation... Parce qu'on pourrait dire qu'il y a de l'athéisme dans le christianisme par, je ne sais pas, Maître Eckhart. Mais ce n'est pas ça. Mais je trouve qu'il y a pas athéisme, mais il y a un phénomène de niement. L'action de nier, l'action de descendre et remonter, c'est ça qui fait que le Christ est proche parce qu'il est tombé. Comme nous, il vient totalement là. C'est ça qui est extraordinaire, extraordinairement touchant et totalement singulier.
Oui, chez vous, il y a un Christ qui est très proche, qui fait d'ailleurs que vous développez cette opposition entre le sacré et le saint. Le sacré étant ce qui, pris dans un certain sens, parce qu'on peut parler du sacré à travers sacré, spirituel, religion... ces mots n'ont pas des définitions très stables. Ils sont tous un peu branlants, comme un bateau dans la tempête. Enfin, le sacré étant considéré, si on pense au mystère grec, si on pense à l'Égypte ancienne, etc., comme quelque chose de lointain, de secret, dans le sanctum sanctorum, dans l'obscur. Et pour vous, au contraire, grâce à cette approche d'un Christ frère, vous êtes dans le saint de proximité.
Oui, voilà, l'approche, la proximité, l'attente, la venue, c'est ça qui me semblait très, très frappant dans cette religion méconnue.
Donc, cette religion méconnue, très présente dans l'envers de l'esprit, considérez-vous, Valère Novarina, que tout ce que vous venez de dire, tout ce que vous apportez dans ce livre, sur votre vision, qui n'est pas simplement la vôtre, qui est celle aussi de, de grands docteurs de l'Église. Est-ce que vous considérez que ce flux est également présent dans vos pièces de théâtre ?
Oui, beaucoup de choses ont été observées dans du théâtre, à travers l'acteur, à travers le langage, à travers ce qui arrive au temps, dans la présentation.
Mais ça n'est pas dit. Vous ne dites pas le christianisme à travers vos pièces.
Non, parce que c'est très important très important que le public s'ouvre, que les choses soient ouvertes et rien ne doit se fermer. Et c'est très beau, le théâtre, lorsqu'il y a des gens très différents et l'un pleure, l'autre rit ou vice-versa, ou pas forcément. Une sorte d'indéfinition des... Je ne sais pas comment vous dire, mais ce qu'il y a de très émouvant dans le théâtre, c'est de pas manœuvrer le public comme un troupeau pour amener à la fois marxiste ou à la fois chrétienne ou je ne sais quoi. Ce n'est pas du tout ça qu'il s'agit. Il s'agit d'ébranler le mur des spectateurs. Il s'agit de par les flèches du langage, d'ouvrir des failles. Il s'agit que les gens soient un peu pas comme ils étaient entrés. C'est tout.
Donc, traduit dans mon propre langage, pourrais-je dire, Valère Novarina, que ce souffle chrétien que vous affirmez dans L'Envers de l'Esprit serait présent dans vos pièces de théâtre, mais non nommé. Il serait présent comme une sorte de souffle qui va à travers le langage, à travers le corps de l'acteur, mais que vous n'avez pas besoin de le nommer, qu'il est simplement une présence sainte.
Oui, et puis je pense aussi que l'envers de l'esprit, je cherchais pas, mais j'ai aussi fait un pont avec des traditions orientales. Ce que les gens actuellement vont chercher dans le zen, le bouddhisme, c'est très bien. Ça existe complètement chez les pères de l'Église, les mystiques. Il y a une richesse incroyable. Il y a quelques années, il y a même maintenant assez longtemps, tout d'un coup, grâce au livre de Gilson sur la philosophie médiévale, s'est ouvert à moi un trésor caché, une caverne d'Ali Baba dont personne ne m'avait jamais parlé à l'école, ni à Tonon, ni à la Sorbonne. C'est les Pères de l'Église, la collection Sources chrétiennes. C'est des textes absolument extraordinaires. Je les lis, je les oublie aussitôt, etc. Il y a un grand refoulement de toute cette culture. Et cette culture permet, Madame Guyon aussi, un passage vers le zen, vers l'Orient, vers la culture. Il n'y a pas du souffle que chez les soufis et les bouddhistes. Il y a le souffle chez les chrétiens, et en particulier, et de façon plus visible, chez les orthodoxes, la prière du cœur, etc. Et je suis donc très attiré par l'Église d'Orient, qui est une Église plus sensible, une Église où on a moins honte du corps et honte de l'art. Parce que les Églises catholiques, parfois, on met du papier collé au mur, voilà, c'est l'intention qui compte. Tandis qu'il y a une sorte de sensualité dans l'Église d'Orient à laquelle je suis très sensible. Donc j'étais très attiré par ça.
Parmi vos pièces de théâtre, arrêtons-nous sur L'Espace furieux, donc celle qui a été jouée en 2006 à la Comédie française. Cela a modifié votre écriture, de sentir cette pièce dans un des plus hauts lieux du théâtre en France ?
Pas du tout, non, ça n'a rien fait de ce point de vue-là. Ce qui a fait quelque chose, c'est de travailler avec deux acteurs extraordinaires avec qui j'avais, oui, plus que deux d'ailleurs, avec des acteurs extraordinaires avec qui j'avais pas travaillé jusqu'alors. Jusqu'à présent, j'avais ma troupe avec des acteurs excellents, mais là, j'ai eu la chance extraordinaire de travailler avec Christine Fersen. C'est quand même... c'est une respiration aussi à la Kalsoum. Hein. C'est quand même c'est le souffle qui meurt et renaît. C'est un ressurgissement perpétuel. C'est la renaissance de la voix. C'est la renaissance de l'esprit. C'est tout à fait incroyable de travailler avec elle.
Et c'était faut rappeler que vous avez été le metteur en scène de votre propre
donc
pièce.
Le fait d'avoir pu travailler avec Snick, Fersen, Giroudon, etc. Voilà.
Le monologue d'Adramelech, donc c'est l'extrait d'un livre plus important que vous aviez publié il y a longtemps, en 84. Babil et classes dangereuses, oui, en 84. Un texte donc qui a été joué en 2009, très récemment.
Et qui va être repris au mois de novembre, au Théâtre de la Bastille.
Le texte d'un souffle, juste un monologue, comme le titre
d'une traite,
donne,
oui.
Sans action, un peu à la Artaud, comme si c'était une sorte de poème recréant le monde.
Oui, c'est un torrent. C'est un torrent et on va le jouer au Théâtre de la Bastille au milieu des peintures, au milieu d'un désordre de peintures. Il y a une sorte de cataclysme de peinture tout autour, pas une scénographie, mais comme un atelier. Et dedans, un acteur parle et on entend différemment le texte avec la présence des choses, des dessins. On comprend le texte différemment. On le perçoit différemment.
Un torrent de mots qui s'engendrent les uns les autres.
Oui, en même temps, il y a un récit, il y a une sorte de biographie, l'adolescent, la naissance, mais c'est un texte assez torrentiel, écrit plutôt d'une traite. Mais au départ, il était écrit, c'était 15 personnages, et tout s'est rassemblé tout d'un coup.
Falstaff, d'après Henri IV de Shakespeare.
Ça, c'était une commande de Marcel Maréchal. C'était pour moi un grand plaisir, une grande joie de tout d'un coup de travailler avec Maréchal. Et j'étais pas bien vieux. C'était un des premiers acteurs que je voyais de près. Donc j'ai beaucoup appris. Je participais pas à la mise en scène, mais je voyais toutes les répétitions. Et c'était un acteur danseur tout à fait extraordinaire. Et puis avoir côtoyé un petit peu Shakespeare, c'est quand même...
C'est assez audacieux quand même d'être dans les marges de Shakespeare.
C'était une commande, mais ça...
Oui, c'était une commande, mais ce n'est pas directement le texte de Shakespeare, donc...
Voilà, ça tourne autour parfois.
Vous partez dans un chemin de traverse.
Oui, surtout sur les parties comiques, parce que les parties comiques sont évidemment toujours très liées à la langue. Donc, traduit en français, d'une manière scrupuleuse, ça ne tient vraiment plus debout. Donc, il fallait retrouver des choses en français. Donc, je trouve, pas trop mal tiré.
Votre relation avec la langue française est capitale, on l'a compris. Elle est charnelle,
passionnelle. Oui. J'avais écrit quelque part que c'était la plus belle langue du monde et j'ai reçu des lettres de protestation de quelqu'un me disant que j'étais chauvin. Je lui ai répondu, excusez-moi, je pense aussi que ma femme est la plus belle du monde. C'est peut-être pas objectivement vrai, mais ça veut dire que j'aime la langue française. Voilà, c'est tout. Que je l'aime vraiment.
Et vous rappelez je crois d'ailleurs que c'est dans l'envers de l'esprit, qu'il y a quatre langues qui continuent de vous habiter. Le latin,
oui.
L'italien, et puis...
Le patois savoyard.
Voilà, le patois savoyard, oui.
Et le hongrois.
Et le hongrois. Alors, bon, on comprend le latin, bon, l'italien, très bien. La Savoie, on a compris. Pour le hongrois, il faut remonter à votre mère.
Et voilà, donc c'est ma mère, quand on était enfant, mon frère et moi, nous attirait près du piano quand mon père n'était pas là, et nous chantait une chanson hongroise extraordinaire qu'un amoureux avait composée pour elle quand elle avait 17 ans. Et il est mort, et donc tragiquement. Donc le hongrois était... Et puis ma mère le chantait avec une espèce de conviction et de déploiement phonique extraordinaire. D'ailleurs, elle partait à la dérive. Parce que les Hongrois qui ont écouté son enregistrement trouvaient que c'était assez étrange. Ça devenait une langue imaginaire aussi, une langue sur les flots, comme ça, lancée dans la tempête. Donc j'étais très attiré par les Hongrois jusqu'à l'an passé, accepter d'aller monter une de mes pièces en Hongrie parce que je ne pouvais pas dire non.
Parce qu'il y a deux entrées sur cette fascination que vous avez pour les Hongrois. Il y a l'entrée biographique que vous venez de donner, votre mère, et puis le fait que c'est une des langues européennes qui ne se rattache qui ne se rattache à aucun des grands groupes, ni germanique, ni latin, ni slave.
Il n'y a pas deux syllabes
Elle est isolée, justement.
Totalement.
Voilà. Elle a son autonomie elle.
C'est assez fascinant, d'ailleurs, d'être immergé dans lors de répétition, j'étais immergé dans une langue où il n'y a pas une syllabe commune. Et je me souviens, je suis rentré à Paris, il y avait une sorte de conférence où était Michael Levinas et je devais parler un petit peu. J'entendais les gens parler français. Je leur dis, excusez-moi, j'étais 2 mois en Hongrie, j'ai l'impression, ça m'est sorti comme ça, j'ai l'impression d'être dans un camp de nudistes parce que je n'ai plus la protection de l'habit des langues. Je suis avec ma langue naturelle et je ne peux rien vous dire. Voilà, je vous entends qu'il y a... Donc c'était très fort d'être immergé dans ces sons magnifiques aussi du hongrois pendant un mois et demi.
Vers où allez-vous maintenant? De nouvelles mises en scène, du théâtre, des textes
Oui, mais ce matin j'essayais des chutes de l'envers de l'esprit, des choses sur le temps et sur le quelque chose que j'essaye de creuser sur la grâce, la grâce au théâtre. La grâce d'un mouvement et pourquoi on associe toujours la grâce et la vérité.
Ainsi se termine Fort intérieur, une émission d'Olivier Germain-Thomas avec comme invité Valère Novarina qui a choisi les musiques que vous avez entendues. Donc au milieu de l'émission, vous avez entendu Oum Kalsoum qui chantait Ganat Naimi. Et actuellement, il s'agit de l'impromptu numéro 2, opus 12 d'Alexandre Scriabine par Vladimir Sofronitsky. Nous nous sommes beaucoup appuyés sur le dernier ouvrage de Valère Novarina, L'envers de l'esprit, publié en 2009 aux éditions Paul. Je vous renvoie également, puisque c'est disponible en folio théâtre, à L'acte inconnu. Je vous renvoie aussi à son Falstaff. Je vous renvoie bien sûr à l'Espace furieux qui a été joué à la Comédie-Française, ainsi qu'à tout le théâtre de Valère Novarina. Toutes ces informations, vous les aurez sur notre site franceculture.com.